Bonjour à tous et à tous. Soyez les bienvenus et merci pour ces chants de louange et puis la lecture de la parole de notre Seigneur. Donc nous poursuivons notre voyage avec ces deux fils bien-aimés. Et la semaine dernière, nous sommes attardés plus particulièrement sur la première partie de ce récit, notamment le désir de ce jeune fils désirant voler de ses propres ailes, comme on dit, demandant à son père son héritage et alla le gaspiller jusqu'à ce qu'il se retrouve dans le dénuement le plus total, hein, jaloux de la nourriture donnée aux cochons, et lui-même n'avait pas le droit d'en manger. Et puis, nous avons vu qu'à un moment donné, il rentre en lui-même, il réfléchit sur son sort. Qu'est-ce qui l'a amené dans la situation dans laquelle il se trouve? Et là, il se dit, je vais retourner vers mon père. Et nous étions quittés en se disant, mais quelle peut être la réaction du père? Le père qui voit son fils arriver de loin, puis plus il s'approche et plus il voit dans l'état dans lequel il se trouve, pieds nus, en haillons, avec une odeur plus que nauséabonde, qui doit sûrement le précéder même. Quelle peut être la réaction de ce père? Nous avons dit peut-être, il y a deux possibilités, hein. Peut-être quand il va le voir arriver, il va lui dire « Va-t'en !» Il va claquer la porte et rentrer à l'intérieur. Ou alors, mais vous connaissez la suite, ça ne va pas du tout se passer comme ça, il va l'accueillir à bras ouverts. Alors la suite de cette introspection du fils, hein, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je vais faire, voilà, j'ai péché, voilà ce que je vais faire, je vais retourner vers mon père. Et là on va assister à une réconciliation. Le père fut ému de compassion. Et là le fils va recevoir un pardon complet, sans question, sans reproche. Le père ne pose, si vous regardez bien, aucune question à son fils. Le père juste s'adresse à ses serviteurs, verset 22. Voilà, nous allons fêter le retour de mon fils. Fini les haillons qui empestent le porc. Ça va être la fête. Mangeons et réjouissons-nous, dit le père. La joie est grande car le fils qui était mort est revenu à la vie. Celui qui s'était perdu est retrouvé. Celui qui avait désiré s'éloigner de la maison revient à la maison. Mais celui aussi qui revient les poches vides revient néanmoins vers son père. Oubliez cette histoire. Oubliez sûrement... En tout cas, pour le père, ces semaines, ces mois ou ces années de détresse, où est mon fils? Que fait-il? Que fait-il? Et puis fini aussi pour le fils, les regrets, la faim aussi, la honte, parce que j'imagine son soulagement. Je vais retourner vers mon père, mais... Comment va-t-il réagir? Et le voilà soulagé parce que son père lui dit rien. Il ouvre les bras, l'embrasse, demande à ses serviteurs de l'habiller, de le chausser, de lui passer l'anneau et de se restaurer. Dans Luc 15, au verset 7, il est écrit « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Et là, il y a un message pour le deuxième fils dans ce verset-là. Parce que nous allons voir sa réaction un peu plus tard. Nous pouvons voir à quel amour le père porte envers son enfant. La joie qui remplit son cœur, j'imagine qu'il devait être ému aux larmes, mais il est tellement heureux de retrouver son fils. Le Père en oublie les souffrances, hein. Il en oublie les blessures, il ne voit qu'une seule chose, son Fils qui revient. Peu importe ce qu'il a fait, comment il est vêtu, il revient. Il y a une publicité, dernièrement je passais devant un restaurant d'alimentation rapide, hein, pour ne pas citer de nom, « Venez comme vous êtes ». Alors là, on voit un symbolique dans le désir de ce Père, c'est il demande à ce que l'on mette un anneau au doigt de son Fils et des sandales aux pieds et des vêtements propres. Et ça, c'était vraiment comme ça qu'étaient habillés les hommes libres. Les esclaves allaient pieds nus et son Fils est revenu pieds nus. Sans anneau, il avait même sûrement dû vendre cet anneau pour manger. Les chaussures étaient symbole de liberté, hein. Et d'après Genèse, l'anneau était signe d'autorité et de filiation. Voilà, on faisait la distinction entre un homme libre, un homme riche, la façon dont il était habillé. Il y a quelques versets qui s'adressent aux parents, notamment aux pères dans la Bible, bien sûr, dans Colossiens chapitre 3, verset 21. « Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » Le père n'a pas réprimandé son fils. Sûrement, ça ne se serait pas bien passé le retour. Et puis dans Éphésiens au chapitre 6, au verset 4, « Père, n'irritez pas vos enfants. » Mais, qui est quand même un mais, élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Vous savez, on a entendu plusieurs années des réprimandes envers les parents, à juste titre, souvent, contre les châtiments corporels. Il est interdit de donner la fessée. Moi, ce que j'en dis et ce que j'en sais, c'est que la fessée me semble avoir sa place dans l'éducation des enfants. À condition, il ne faut pas confondre correction, pas pour le plaisir, mais gratuitement, et la fessée qui dit non, hein, stop, ce que tu as fait est mal. Ça va te marquer. Alors j'espère ne pas m'attirer les foudres de certaines personnes, mais moi, mes enfants, je n'étais pas pour la fessée. Je ne l'ai jamais été d'ailleurs, mon épouse non plus, mais ils ont eu quand même leur petite fessée. Voilà. Et l'attitude de ce Père, bien sûr, nous fait penser à l'attitude du Père Céleste, de Dieu, le Dieu créateur. Chaque être humain a reçu son héritage. Sans que nous le demandions. Nous avons tous, ceux du dedans et ceux du dehors, les chrétiens et les non-chrétiens, nous avons tous reçu notre héritage. Après, qu'en avons-nous fait ? Nous avons dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de cet héritage ? Je l'ai gaspillé. Je vais retourner vers Dieu, je vais m'adresser à lui, Père, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi. Et le Seigneur ne va pas me corriger. Mais ils veulent montrer son amour envers nous. N'est-ce pas rassurant de savoir que notre Dieu réagit comme ce Père ? Qu'il désire que nous ne soyons plus des esclaves, pieds nus, sales, salis par le péché, mais il veut que nous soyons alliés avec lui, que nous ayons cette alliance ? Que nous soyons bien vêtus, dignes, les pieds chaussés pour pouvoir marcher avec lui, sans blessure. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Luc 15, verset 10. Nous avons déjà cité ce verset de 1 Corinthiens 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout n'aide pas à grandir, à se structurer. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 12, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres, savoir transmettre la parole de Dieu. » Puis il y a une exhortation qui s'adresse à chaque enfant de Dieu. Le Seigneur dit, « Mon fils, ma fille, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » La petite fessée du Seigneur. « Car le Seigneur châtie ce qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Voilà, même la parole de Dieu parle de cela, de la correction. Il n'est pas dit que le Seigneur allait nous battre sauvagement. Dans 1 Jean, au chapitre 2, versets 28 et 29, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » Puis il y a d'autres versets aussi, notamment celui-ci, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ?» Et le Seigneur nous dit aussi, « Il sera donné à celui qui demandera avec foi et sincérité. » Et encore un message pour ce qu'on va arriver au deuxième fils. Que vous en semble ? Que pensez-vous ? Matthieu 18, verset 12. Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée ? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les autres qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Le Seigneur Dieu a laissé des signes partout pour tout le monde, pour que chacun reconnaisse la présence et la puissance d'un Dieu créateur. Ça fait partie de l'héritage que Dieu a fait à sa créature. Et encore une fois, la créature libre de prendre son héritage et d'aller le gaspiller, libre à elle de revenir vers le Père ou pas, ou de se perdre définitivement. Le Seigneur a hâte de célébrer les retrouvailles avec sa créature. Et pour chaque homme, pour chaque femme, il est temps de revenir à la maison de Dieu, afin d'y chausser les sandales de l'homme libre et d'y revêtir des vêtements de fête. Le sacrifice a déjà été fait. Il n'y a plus besoin d'aller chercher le veau gras comme dans notre histoire. Jésus a déjà payé le prix. Il a été l'agneau sans tache, brisé, sacrifié pour nos péchés. Nous avons cet héritage et il y a déjà le salut qui a été donné. Chacun est libre de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Alors c'est vrai, certains disent « Oh, de toute façon, Dieu est tellement bon que tout le monde sera sauvé. » Il y a même un chanteur qui lui chantait il y a quelques années « Nous irons tous au paradis. » Et il décrit les bandits, les voyous et ainsi de suite. C'est pas ce que Dieu dit. Tous ne seront pas sauvés. Et pourtant, Dieu a créé chaque personne pour qu'elle soit sauvée. Mais Dieu a créé chacun libre de choisir. Et le Seigneur veut que même dans l'état de péché, nu, sentant vraiment mauvais, sale, couvert de honte, de souillure, le Seigneur nous attend à bras ouverts et il nous embrasse parce qu'il n'a pas honte de nous voir. C'est pas notre souillure qu'il voit, c'est l'être qui est derrière. Et même nous, chrétiens, si nous péchons, le Seigneur attend notre retour. Lui ne s'est pas éloigné de nous, c'est nous qui nous éloignons de lui. Mais il est prêt à nous reprendre dans ses bras, à nous reprendre par la main, pour nous reconduire dans le bon chemin. Et ce deuxième fils tant aimé. Alors les derniers versets, il y a eu dans les versets qui précèdent, il y a vraiment eu des messages qui ont introduit cette parabole. Et ce deuxième fils, d'un seul coup, regardez bien. Alors, attendez, excusez-moi, je cherche le... Voilà. Le fils se met en colère, verset 28. Déjà, il y a un serviteur qui lui dit « Ton frère est de retour !» Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Mince, l'autre fils, ça faisait déjà des mois qu'il prenait soin de ce veau gras pour la bonne occasion, enfin, pour une bonne occasion. Et voilà que le chenapan, là, le garnement, le fils, entre guillemets, on va pas le dire, mais on le dit quand même, maudit, revient, et parce qu'il revient, on va tuer le veau gras. Il se met en colère. Et pourtant, ce fils, c'est les brebis, fils de Dieu. Ça fait partie du troupeau des 99, et la centième brebis est revenue auprès de son père. Et plutôt que de participer à la joie, il se met en colère. Il ne veut même pas entrer. C'est son père qui va le rechercher. Le Seigneur ne veut pas qu'on s'éloigne de lui. Il nous envoie des messages et vient nous rechercher. Ton attitude n'est pas correcte. Pourquoi se mettre en colère? L'autre fils est resté tout le temps auprès du père. Il a eu sa part et il jouit de sa part avec son père. Tous ses biens, tout le confort, toutes les richesses sont là, à portée de main. Il ne se pose pas de questions sur sa propreté, sur sa nourriture. Tout est à sa portée. Nous, chrétiens, tout est à notre portée. De quoi avons-nous besoin de plus? De savoir que le Seigneur est à nos côtés, jour après jour, qu'il prend soin de nous, qu'il nous accompagne, qu'il nous guide, qu'il nous dirige, qu'il nous chérit. Celui qui est près du Père nécessite moins d'attention que celui qui est perdu. Est-ce que nous allons chez le médecin quand nous sommes en bonne santé? Non. On y va quand on est malade, pour qu'il nous prodigue des soins, justement, pour qu'il nous aide à guérir, à nous sentir mieux. Cet état, là, l'attitude de ce fils est indigne. Vivant auprès de son père. Et il ose répondre à son père, verset 29. Il lui dit, « Hey, papa, je te rappelle quand même que ça fait des années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un veau gras pour que je me réjouisse avec mes amis. » Il est en train d'essayer d'expliquer que lui aussi, il veut son veau gras. Mais il l'a tous les jours. Il a tous les jours cette nourriture. Et à la limite, rend compte, l'autre, là, tout ce qu'il a fait, il a gaspillé ton argent, il est allé avec des prostituées, et il arrive et c'est la fête. Et moi, j'ai toujours été avec toi. Mais réjouis-toi, mon fils, d'être à mes côtés. » Et d'ailleurs, le père lui dit, « Mais ton frère, que voici, était mort. Il avait quitté la maison, il avait lâché la main du père. Il était parti, il pensait qu'il allait pouvoir trouver le salut dans cette facilité à gaspiller, à ne pas compter, à ne rien construire et surtout se priver du salut. » Il lui dit, mais toi, mon fils, tu es avec moi. Alors est-ce qu'il faudrait, parce que dans la vie d'un tel, nous avons vu que Dieu a fait un miracle, est-ce que nous, chrétiens, nous allons réclamer d'être malades pour voir Dieu faire un miracle dans nos vies? J'espère pas que nous ayons cette pensée, cette idée. Le Seigneur, ça veut dire que tu es plus avec lui qu'avec moi. Là, il faut faire attention. Surtout de ne pas avoir ce genre de pensée. On dirait que le Seigneur, il prend plus soin d'elle que de lui. Tu te rends compte, il a trouvé du boulot, un super boulot. Tu te rends compte, il a rencontré quelqu'un de formidable. Tu te rends compte, il était très malade et tu l'as relevé. Ouais, mais moi, j'ai tout ce qu'il faut. De quoi ai-je besoin? Est-ce que j'ai besoin d'un miracle dans ma vie pour me dire, ah, c'est vrai, Seigneur, que tu m'aimes, mais le Seigneur t'aime. Tu lui as donné ta vie. Tu vis à côté de Dieu et Dieu vit à côté de toi. Et là, j'espère que ce deuxième fils tant aimé comprenne la leçon. Son père aurait pu l'encourager à partir aussi. Bon, ben maintenant que j'ai partagé votre héritage, les enfants, allez. Voyons ce dont vous êtes capables. L'un va gaspiller et l'autre. Qu'aurait-il fait ce deuxième fils si son père l'avait encouragé aussi à partir? Pas à le chasser, pas à le mettre dehors, mais dire, tiens, faisons un test. Éprouvons-le. Qu'aurait-il fait ce deuxième fils? Mais non, il jouissait de la présence de son père à ses côtés chaque jour, ne vivant pas dans le besoin, vivant dans ce qu'il avait de nécessaire. Le Seigneur dit, mais ma grâce te suffit. Qu'as-tu besoin de plus? Est-ce que parce que tout à l'heure j'étais sur le périphérique et puis il y a une Ferrari qui m'a doublé? Est-ce que je me dis, mais Seigneur, et pourquoi moi je ne peux pas payer une Ferrari? Après tout, je n'ai pas de Ferrari, ça va être très bien comme ça. Voilà. Pourquoi je ne suis pas le directeur de ma boîte? Parce que c'est comme ça. Et puis je suis fier de l'être. Enfin, d'être. Un employé? Vous voyez, cette notion de, c'est vrai, se satisfaire de ce que j'ai, mais surtout, au-delà de cela, de savoir que ma joie et la reconnaissance, c'est d'être auprès, de savoir que je suis auprès de mon Père. J'essaye pas de vivre ma vie et puis voilà, je suis auprès de mon Père. Et c'est vrai que il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur vient à la repentance. Et c'est le plus merveilleux, c'est vraiment ce qui compte. Nous avons à persévérer, nous avons à transmettre aussi la parole de Dieu aux autres, de leur montrer, regardez sur une histoire comme ça, quelles sont les attitudes. On a vraiment que le Seigneur nous conduise dans cette pensée, qu'il fasse germer en nous que cette parabole se révèle pour nos vies, que nous soyons surtout ses reconnaissants. Pour avoir quelques moments de réflexion silencieuse ou de prière à haute voix, pour dire Seigneur, oui, merci pour cette parabole, parce que c'est vrai qu'on a tendance à s'attarder sur le premier fils. Souvent, hein, moi quand j'ai entendu prêcher sur cette parabole, c'était toujours sur le premier fils. On a juste oublié le deuxième, souvent. Et pourtant, l'enseignement du deuxième est super important aussi, à ne pas négliger. Merci, que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.